Bonjour, bonsoir, dépendant du moment où vous nous écoutez. On s'apprête à rentrer tout doucement dans cette édition du 15 avril de Voix de fait, l'émission du duo anarchiste la nuit.
Ouais.
Alors, il y a moi, Nicolas, et Farouko.
Yeah.
Derrière la console. Mais en temps normal, c'est quand même le collectif anarchiste la nuit. C'est un peu douteux aujourd'hui de parler de collectif anarchiste la nuit. D'une part, il ne fait pas encore noir et d'autre part, nous sommes deux. Alors, cette semaine à l'émission, une longue entrevue avec Malcolm Reed, l'auteur de Notre parti est pris, livre qui était lancé jeudi dernier à Québec, et les PPP.
Les PPP 2 ce soir et ou aujourd'hui ce soir. Cet après-midi selon quand vous nous écoutez.
Avant de s'en aller en PPP et tout de suite après en entrevue, petite nouvelle qui a attiré notre attention cette semaine. À la veille du long congé de Pâques, le Journal de Québec titrait le retour en force de la catéchèse et nous apprenions que suite à l'abolition du cours d'éducation religieuse, cours auquel est inscrit 80% des écoliers francophones du secteur public.
Ouais, c'était donc, carrément par l'HT.
Ouais, c'est ça. Suite à cette abolition-là, donc l'Assemblée des évêques a décidé de remettre en forme le cours de catéchèse, cours qui se donne maintenant sur 3 ans, des sessions de 20 semaines à raison d'une séance de 3 heures par semaine.
Ouais, mais on s'entend.
En général, le dimanche matin, mais ça peut être aussi la semaine.
Leur propagande, c'est leur job, là.
Ouais, c'est ça, c'est leur job. Alors voilà, il y a une hausse fulgurante du nombre d'inscrits. Semblerait qu'il y aurait 10% des jeunes qui seraient inscrits à ça. Alors, retour en force de la catéchèse, 10% des jeunes sont inscrits au cours d'éducation religieuse fourni par les paroisses au Québec. On pourrait toujours arguer que c'est 10% de trop, mais moi, ce que je retiens surtout, c'est que sans l'aide de l'État, l'Église échappe 90% des
brebis. Ouais, mais c'est 70% de moins qu'avec la situation antérieure.
Effectivement.
C'est quand même
bon, on remarque que le journaliste avait vraiment botché sa job. C'était pas possible de savoir si c'était 10% des élèves francophones, 10% de tous les élèves, ni non plus combien il y avait de pourcents avant et tout. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, faut pas s'attendre à trop de choses non plus, là. C'était l'agence interne de Québécois, là.
Okay.
Les SCAP du Journal de Montréal, en fait. Voilà. Donc, on s'en va avec les PPP. Nous, on va avec Benabar avant? Ou
non,
le PPP d'abord?
On va commencer par un PPP, question de se mettre dedans. Puis après ça, on va enchaîner avec ta demande spéciale. Infréquentable de Benabar.
Youhou!
Si je comprends bien, on la dédicace à une auditrice.
Wow, quand même.
Ah!
Voici bien. La parole populaire. Claude Poirier.
J'ai eu plusieurs appels, vous savez. Ma boîte vocale, c'est important. Il y a des femmes qui prennent cette boîte vocale-là comme étant un confessionnal pour me raconter leur vie. Perdez votre temps, j'ai pas le temps de m'occuper de ça.
Je ne comprends pas qu'une auto dans une ruelle, 4 mois, puis aucun saineux qui a été voir ce qu'il y avait dedans.
L'autre jour, j'étais à ma caisse, puis il y a une madame qui est arrivée avec 8 boîtes de savon.
Ben moi, monsieur, qui amène une machine dans ma ruelle qui traverse plus que 3 jours, ça fait longtemps que j'aurais dû ouvrir la porte, croyez-moi.
La madame est contente.
Vous perdez votre temps, j'ai pas le temps de m'occuper de ça.
Ça prend du monde sans dessin, ben sans dessin, pour pas avoir été voir dans la machine. D'habitude, c'est tout des saineux, puis là, personne n'était voir, là. C'est pour en faire.
Pas honte du tout. Merci beaucoup d'être si nombreux à nous écouter à compter de 9h le matin. Est-ce qu'on a pu établir, on va voir, on va montrer à la télévision, c'est quoi que ça a l'air, c'est un Yorkshire. On l'a pris sur le site sur le web. Il était armé, quoi, il y avait des bouteilles de bière, c'est ça? Et si vous payez pas,
ben écoutez, là, le chien ne reviendra tout simplement pas à la maison.
Est-ce qu'on a pu établir, est-ce que ça semble?
Je t'aime, mais en pensant à mal, parce que tout passe, et tout finit, sans la moindre morale, prêt à tout, pour que tu m'aimes aussi. Je ne suis pas fréquentable, t'es sûrement perdu d'avance, tout ça n'est pas très équitable, je n'ai rien pour ma défense, au lieu de rougir de tous mes vices, je voudrais en plus qu'il soit versa, j'aimerais que tu nourrisses les mêmes sentiments pour moi, les sentiments les plus bas. Je t'aime avec un mauvais fond, parce qu'au fond, je n'y crois plus. hésitation. Depuis la première fois que je t'ai vu, je suis un félon et un traître. Pour que tu me prennes la main, je pourrais même peut-être donner l'adresse de Jean Moulin. Je suis égoïste et avare, ça non, je te partagerai pas. Je nourris à ton égard les sentiments les plus bas. Pas d'honneur, pas de dignité, j'irai pleurer sous ta fenêtre. Ce qui te déplaît, je te le cacherai, je suis un lâche, un malhonnête. Je reconnais, je suis pervers, j'ai plein d'idées derrière la tête. En plus, je chante la bouche pleine. Je suis ridicule, je me sens comme un cheval au galop. En plus, mes métaphores sont nulles, je suis pas du tout au niveau. J'ajoute que j'ai pas de caractère, tu feras ce que tu veux de moi. Les sentiments que tu m'inspires sont décidément très bas. Combien de fois faut que je répète, moi l'impatient compulsif, je t'aime bordel, c'est clair et net. Je suis grossier et agressif, monomaniaque, obsessionnel. Il n'y a qu'à toi que je pense, je suis flatteur, professionnel. T'es belle, gentille, et puis t'es douce, j'ai pas de parole. Je suis parjure, j'avais déjà dit à une autre que c'est elle que j'aimerais toujours. Je suis un menteur, j'ai même pas honte, aucune vertu, tous les défauts. Il m'arrive de penser qu'un jour je suis pas crédible et mégalo. Ça se trouve, tu m'aimeras en retour.
Dominic Zodi, orationem meam. Dominus vobiscum, et spiritus sanctus. Amen.
Vous écoutez, Voix de Fer.
Ah bah, c'était bon, hein.
Oh oui, mais c'était court.
Dimanche, n'écoutant que mon courage, je me suis rendu au Café Babylone pour faire une entrevue avec Malcolm Reed. Quel meilleur endroit que le Café Babylone pour interviewer Malcolm, qui, ma foi, a interviewé des tonnes de gens dans des bars et des cafés pour arriver à écrire son bouquin, paru il y a 30 ans et traduit la semaine dernière aux éditions des presses de l'Université Laval. Donc, sans plus tarder, une entrevue exclusive avec Malcolm Reed sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec.
Alors, jeudi dernier, le 9 avril, au Vaisseau d'or à Québec, il y avait le lancement du livre de Malcolm Reed, de La partie est prise, une traduction de Charlene Saint Panthers, un livre qui est sorti, ma foi, il y a une trentaine d'années, portant sur les écrivains révolutionnaires du Québec des années 60, en fait, partie pris pour être plus précis. Et puis, ben, justement, on a voulu rencontrer Malcolm pour en savoir un peu plus. Bonjour, jeune homme.
Salut, Nicolas.
Donc, Malcolm, le bouquin en soi, c'est une introduction, si on veut, au Québec effervescent, radical des années 60.
On peut dire ça.
Et
à l'époque, quand je l'ai écrit, ce n'était pas du tout un retour dans le passé. C'était actuel, mais ça avait un peu de recul, comme un livre peut avoir par rapport à un article dans un journal. Et je ne suis pas un type beaucoup porté vers le passé. Mais quand on est à la soixantaine, peut-être que c'est notre jeunesse et des choses importantes de notre jeunesse que les jeunes n'ont pas vécu qui est la chose là, qui fascine le plus.
Donc, notre partie est prise, prend le lecteur et l'amène dans le Montréal des années 60, dans les milieux littéraires, révolutionnaires, nationalistes révolutionnaires, en fait, tout ce qui tourne autour de parti pris, du mouvement de libération populaire, du FLQ et tout et tout. Et nous présente ça et nous introduit avec tout ce que ça implique comme culture, comme cheminement. Et ça vient d'un Canadien anglais. Comment est-ce que tu t'es ramassé à faire ça?
Ben, j'étais journaliste assez straight. Je travaillais pour la Presse canadienne, qui est l'agence de presse qui fournit les nouvelles à tous les journaux du Canada. Là. Et je travaillais un peu plus tard pour le Globe and Mail, le grand journal très centriste et très, très sérieux du Canada anglais, un peu le Devoir du Canada anglais. Et j'avais travaillé pour un petit journal à Sherbrooke. J'avais fait mon apprentissage en journalisme au Sherbrooke Daily Record. Donc, j'avais un bon apprentissage en journalisme selon les règles, selon le style book. Mais...
La pyramide inversée et tout ça, là.
C'est ça, c'est ça. Mais je brûlais de faire plus que ça. Peut-être pas de jeter ça à la poubelle, mais de faire plus que ça. De faire un reportage qui allait au fond de quelque chose. Et je cherchais le quelque chose qui méritait que j'aille au fond. Puis moi, tout mon background familial et mes actions en liberté dans ma jeunesse, c'était les manifs contre la guerre nucléaire, c'était l'action politique et puis c'était l'utopie politique que j'avais déjà venait vers moi de mes parents qui étaient des vieux gauchistes des années 30, qui sont devenus des pères et mères de famille à Ottawa. Ben, pink, on peut dire pink, parce que mes parents n'étaient pas communistes, ils étaient sociodémocrates, CCF. Et cet idéal, donc, était très présent en moi et en mon frère. Donc, c'était un peu le fait de chercher ce qui combinerait tout ça. Et déjà, j'étais au Québec parce que ça bougeait au Québec. La révolution tranquille s'est déclenchée juste comme j'arrivais à 20 ans, puis que je cherchais où je ferais mes études. Et j'avais fait des études brièvement à l'Université McGill, où les parascolaires et le McGill Daily et tout ça avaient été beaucoup plus importants que les cours eux-mêmes pour moi. J'avais été juste brièvement là, et ma vraie formation, c'était dans la presse où j'apprenais le métier. Et j'ai commencé à voir... Je savais qu'il y avait une manière où la littérature et la culture, il y avait une gamme de culture entre culture populaire à la télévision et culture savante dans les bibliothèques qui était différent au Québec français que dans ce que je connaissais. Il y avait une rupture carrée entre les deux dans mon monde à moi. Mais au Québec, je voyais qu'il y avait une gradation plutôt. Les intellectuels arrivaient plus à influencer la masse de la population. Et je savais que des idées beaucoup plus à gauche, beaucoup plus explosives, commençaient à sortir au Québec et commençaient à avoir leur impact. Mais je voulais quelque chose aussi qui avait un aspect culturel. Et quand j'ai vu les romans de Jacques Renaud, de André Major et la poésie de Paul Chamberlain, surtout ces trois écrivains-là, Chamberlain, Major, Renaud. Je me suis dit, voilà une forme de fiction et de poésie qui est comme rien d'autre que j'ai constaté autour de moi. J'admirais, j'appréciais Leonard Cohen, j'appréciais Frank Scott, j'appréciais la culture canadienne-anglaise de bon aloi, et j'appréciais certaines choses de la culture de masse aussi, américaine et canadienne. Mais j'avais rien vu qui était autant... une œuvre qui cherchait à divertir et à stimuler l'imagination, mais en même temps à changer la société, comme ces romans-là. Alors je me suis dit, voilà mon sujet.
Et t'as approché ce sujet-là d'une façon quand même assez particulière. C'est ni simplement un travail journalistique dans la mesure où bon, il y a des portraits, il y a des rencontres et tout, mais on dirait que tu t'es approché très près de ton sujet, disons, pour le dire comme ça, parce que souvent on a soit des analyses de texte très désincarnées où les gens ils font une analyse de texte et puis bon voilà c'est ce que l'auteur dit, ou alors t'as à l'opposé, le travail journalistique et dire on va faire un portrait avec une entrevue, c'est tout, on va aller en surface. Toi, c'est à cheval entre l'analyse de texte, mais c'est très, très, très subjectif et on dirait carrément que tu pénètres pendant plusieurs années ce milieu-là.
Nicolas, tu me fais analyser moi-même comment ça s'est fait. Comment ça s'est fait pour moi, c'était j'y allais spontanément. Je n'analysais pas, je ne faisais pas de plan de quel. Il y avait une nouvelle sorte de journaliste qui émergeait. Un peu partout en Occident dans ce temps-là. J'étais influencé par ça. J'étais un grand lecteur de magazines, j'étais un grand lecteur J'ai commencé à devenir un lecteur de littérature et de bouquins que je n'avais pas été dans, ma, dans mon enfance. Tu me fais constater que j'avais un avantage, c'est que je ne connaissais pas personnellement aucun de ces trois écrivains-là. Et je n'étais pas nécessairement destiné à les rencontrer par le hasard des choses. Même si j'allais au, à la Hutte Suisse et à d'autres bars branchés de l'époque, où la discussion était chaude, il y avait la barrière de la langue, il y avait simplement le fait que, en général, tu vas dans un café ou un bar et tu rencontres une gang que tu connais déjà. Tandis que si tu veux rencontrer de nouvelles personnes, il faut que tu fasses tes téléphones, il faut que tu fasses les démarches pour les rencontrer. Donc, je pouvais entrer dans une conversation très bonne, très riche, avec Chamberlain, avec Major et avec Jacques Renaud. C'était pas seulement ces trois-là qui m'intéressaient, mais disons, ces trois-là me semblaient être le noyau de quelque chose. Et ce quelque chose s'appelait Parti pris, la revue Parti pris et les éditions Parti pris. À partir de zéro, je pouvais peut-être devenir leur ami, je pouvais peut-être entrer dans l'intimité de la chose, mais je n'étais pas un vieux copain. C'était comme un journaliste aborde son sujet en faisant un coup de fil et en disant « Voici, je suis un tel, j'ai l'idée de faire quelque chose un peu comme ça, seriez-vous intéressé ?» Et que donc la personne entre en conversation avec toi en sachant que ce qu'il va dire est « on the record ». Il va être, il est en train de présenter sa manière de voir la vie et sa manière de faire son art.
Donc,
là, c'est excellent. C'est journalistique. Mais on pouvait aussi aller plus loin, avoir de longues conversations, reprendre le fil des sujets dans d'autres conversations par la suite. On pouvait aussi, après cette première conversation, se croiser par hasard. Et ça, c'est ça qui a fait l'aspect roman de mon livre. C'est que j'ai croisé ces gars-là par hasard et j'ai été dans leur manif. Et ça fait une histoire à compter.
Ouais, ben on voit très bien là, les on voit aussi ta formation journalistique de base, le show don't tell. Mais mais on comprend que c'est une gang qui est relativement facile d'approche et pour revenir, tu dis un Ontarien finalement qui arrive, un Canadien anglais pardon, qui arrive à Montréal. Qu'est-ce qui frappe à Montréal? Dans les années 60, qu'est-ce qui frappe dans le milieu francophone qui...
C'est la naissance d'un courant révolutionnaire, progressiste, qui s'enracine dans la tradition. La tradition qui, jusque-là, avait été la carte forte dans la culture québécoise, la culture canadienne-française, comme on disait. Riche en racines, un peu pauvre en branches, mais là, les branches poussaient à une grande rapidité.
D'accord. Ça va plus faire fast-forward un peu. Le livre est sorti, donc, ce bouquin-là est sorti il y a une trentaine d'années, c'est ça?
Oui.
Oui?
Oui.
Ça a eu quand même un certain impact, là, si je me fie à ce que j'ai lu à droite et à gauche. C'est comme une espèce de carte de visite de 300 pages sur le Québec culturel. Et tout, ça a été pour beaucoup de jeunes Canadiens anglais, une espèce de comment je pourrais dire, d'atlas du monde montréalais, mettons.
Ben oui, et je dirais, le pourquoi de ça, c'est que c'est un livre très sérieux. J'essaie de comprendre les écoles de pensée dont les sujets que je discute se réclament. J'essaie de comprendre la décolonisation. J'essaie de comprendre en quoi la pensée d'un Frantz Fanon, par exemple, est différent de d'autres écoles de pensée socialistes qui avaient déjà cours avant lui, dans quelle mesure il comprenait et que eux, appliquant sa pensée à leur situation au Québec, que quand un peuple entier, avec une culture distincte, est sous la boîte d'un empire, que c'est l'ensemble de cette société-là qui se sent infériorisé, et pas juste les pauvres. Et j'essayais de rentrer dans ça. C'était pas un sujet que je connaissais d'avance parce que, disons, la pensée socialiste dans laquelle j'avais été élevé, c'était universaliste. Les questions ethniques sont très bien, on respecte ça, et ce n'est pas ça le fond de la question. Tandis que pour Fanon et pour les partis pristes à la suite de Fanon, Et pour Jean-Paul Sartre aussi, qui a appris de Fanon aussi, qui a écrit la préface à Fanon, et qui était un demi-dieu pour les gens de parti pris, pour eux, cette découverte que les Québécois partageaient quelque chose avec les Africains et les Asiatiques et les Latino-Américains, le tricontinental de la misère, qui était aussi un tricontinental d'un désir de naître. Un désir d'être devant le monde dans toute la richesse de sa culture, que ça pouvait s'appliquer au Québec et qu'eux œuvraient pour l'appliquer. Et ils n'étaient pas violents, ils étaient des penseurs, ils étaient des gars de café et des gars de philosophie, mais disons qu'ils touchaient, ils examinaient la violence, donc il y avait un élément sensationnel. La littérature de Chamberlain, il y a une rhétorique de révolte intense dans son poème « L'afficheur hurle qui est en rupture avec tout ce que la poésie canadienne et canadienne-française faisait jusque-là, et qui est très en phase avec l'Afrique qui s'éveille, par exemple, et avec l'Amérique latine aussi. La révolution cubaine était toute jeune. Puis il y avait des débuts de révolution de ce même genre dans tous les pays d'Amérique latine. La littérature d'André Major était plus douce, mais c'était un examen de la vie quotidienne de gens qui en arrachaient et puis qui avaient à lutter pour survivre. Et le roman de Jacques Renaud, c'est sur le sous-prolétariat, sur les gens qui sont dans la misère profonde, et qui sont, quand la révolte vient en eux, c'est une révolte crue, une révolte très... il y a un roman, un célèbre roman existentialiste de Albert Camus qui s'appelle L'étranger, qui avait une grande influence dans l'ambiance littéraire de l'époque et qui finit par un assassinat dans le roman de Camus, pour rien, on dirait, pour rien, au lecteur de chercher le pourquoi de cet élan de violence. Dans le cas de Jacques Renaud, c'est moins mystérieux quelle est la source de la lente violence qui finit en assassinat. Mais il y avait donc, dans toute cette littérature-là, un élément sensationnel qui pouvait faire qu'un livre sérieux, analytique, pouvait aussi être un petit peu un roman qui éclatait de sueur et de colère.
Oui, mais toi, tu avais pris parti pour eux aussi, il faut le dire, là.
Ah oui, 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 oui. Et ça, c'était le grand plaisir que je me suis offert en faisant le livre, c'est que toutes les règles d'objectivité qu'on m'avait inculquées à la presse canadienne, au Globe and Mail, Sherbrooke Record, tombaient. Mais il fallait que j'invente ma propre distance entre moi et mes sujets. Et il y a une distance. Il y a... Je suis... globalement très d'accord avec eux, mais je critique par d'autres moments.
Oui. Oui, donc vous êtes toujours sur les ondes de CKIA 88.3 à Québec. On va revenir avec Malcolm Reed au Café Babylone dans quelques instants. Mais avant, on va quand même faire une... J'ose pas dire pause musicale. Pareil, il faut pas dire pause musicale. On va aller écouter une chanson de Yabasta, La force du droit.
Des plats commémoratifs aux radures instantanées. L'héroïsme du passé nous est souvent raconté. Un mode d'histoire mentale, on impose un moral. Sous le couvert du droit, on va grand nombre de lois. Un mode d'histoire mentale, on impose un moral. Sous le couvert du droit, on va grand nombre de lois. Mon esprit est prisonnier, cherche à
chemin de dans ces spirales où règne le vitesse d'estomade. On impose un moral sous le couvert du droit. On va dans nos lois. Pas moins d'histoire mentale. On impose un moral sous le couvert du droit. On va dans nos
de tous les patrons inconsidérément. C'est ça qu'on va faire. C'est ça qu'on va faire.
T'écoutes voix de
fait, madame.
Sur ces belles paroles de Michel Chartrand, nous, on va, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner au Café Babylone avec, en compagnie de Malcolm Reed.
Et, dis-moi, 30 ans plus tard, le Québec a changé radicalement. En tout cas, on a l'impression de nous faire raconter quelque chose, un autre monde. En tout cas, en lisant notre partie épris, on a l'impression de se faire raconter un autre monde. Qu'est-ce qui fait que 30 ans plus tard, justement, le livre revient? Parce que quand même, c'est sorti en anglais.
Oui.
Okay, distribué au Canada anglais, aux États-Unis, en Angleterre. Il y a de cela fort longtemps, 3 décennies, c'est quand même énorme. Et là, ça sort aux presses de l'Université Laval en français. Qu'est-ce qui a amené une traduction maintenant?
Ben, des éléments de hasard. Il y a un gars aux presses de l'Université Laval qui s'appelait Léo Jacques, qui était très alerte à l'intérêt de la chose dès que je lui ai proposé. Donc, je dois beaucoup à Léo Jacques. Je dois beaucoup à Sherry Simon, une prof de français à l'Université Concordia, qui a écrit un essai disant combien ce livre avait marqué sa jeunesse. Je dois beaucoup à tous ceux qui ont vu l'intérêt de la chose. Mais ce qui, en général, fait qu'il y a un intérêt pour ça aujourd'hui, ben, je pense qu'en général, c'est que le Québec a changé, mais il est encore reconnaissable. Son grand enjeu, c'était sa confrontation avec le Canada anglais, avec le monde anglophone. Ça conduit à une méfiance. J'ai pas tellement senti une méfiance chez les gens de Parti pris. Mais André Major, dans certaines des entrevues qu'il a données depuis que l'édition française est en préparation, il a dit qu'entre eux, ils discutaient est-ce que ça pourrait être un espion, ce gars-là. C'est un gars de gendarmerie royale, peut-être. Et André dit que quand ce sujet surgissait, j'ai répondu. Ça ne se peut pas, parce qu'il n'a pas, il n'aurait pas cette allure-là, il n'aurait pas cette approche-là, s'il l'était. Il est trop open. Alors, ça fait plaisir de découvrir ça 30 ans plus tard, mais moi, j'avais foncé un peu comme celui qui comptait que je pourrais convaincre que j'étais de bonne foi. Et j'avais pas la même maîtrise du français que j'ai aujourd'hui, mais disons que j'étais un néophyte en français, très enthousiaste, et qui était suffisamment initié pour comprendre la nuance entre le français Radio-Canada, le bon français, et le français dans leur roman et leur poème, qui était une tentative de mettre en littérature le langage de la rue.
Oui, parce que c'est quand même la première fois que ça se fait, ça. Et, d'accord, puis c'est quoi le... La jeunesse, qu'est-ce qu'il y a de différent entre le bouquin qu'on peut trouver aujourd'hui auprès de l'Université Laval et le bouquin qu'on trouvait, mon Dieu, je me souviens même plus du McLean Review.
Ben, c'est le même livre. Je portais à dire il faut pas chercher la différence, mais il y a un couple de différences qu'il faut mentionner quand même. Une, c'est une pure joie pour moi, c'est que j'ai toujours été dessinateur, j'ai toujours aimé autant. Dessiner dans mon carnet de croquis, dessiner en marge de ce que j'écrivais, que d'écrire. À l'époque où j'ai fait ce livre, je n'osais pas proposer ça aux éditeurs. Ça n'aurait pas cadré, je trouvais. Je n'avais pas de nom de fait en dessin. Et donc, le livre a été publié. Il est très en haut en couleur, peut-être, dans ses paragraphes et dans sa prose.
Mais ça reste
mais
la typographie.
C'est des pages, pages, après pages de texte. Tandis que cette fois ici, je me suis dit, c'est ma chance ou jamais d'ajouter cet élément visuel au livre. Donc, je vais le proposer. Puis, les presses de l'Université Laval étaient ouvertes à ça aussi. Et là aussi, il faut dire, peut-être étonnant qu'une institution si straight que les presses de l'Université Laval comprennent que le livre pouvait être rehaussé et transformé par le dessin. Mais ils ont m'ont permis de faire les dessins noir et blanc, mais BD un peu. Je suis pas un très bon dessinateur, mais disons que je fais ça
avec ton style.
Avec oui,
reconnaissable entre
oui,
tous.
Avec oui, je fais ça. Il y a un certain punch, il y a un enthousiasme sûrement, et un amour pour les gens que je dessine. Je dessine quand quelqu'un m'intéresse et me semble intéressant. Et donc, le livre devient une œuvre visuelle avec cette édition aussi. Quand je suis arrivé, pour ce qui est du texte, je voulais le conserver tel quel. On m'avait dit, voulez-vous transformer ça, moderniser ça? J'ai dit, non, pas vraiment. Arrivant cependant, dans mon travail avec la traductrice du livre, Héloïse Duhem, Héloïse a fait un travail extraordinaire de traduction. Et c'est une jeune, donc elle n'a pas vécu les événements et l'époque qui est racontée dans le livre. Et elle était très à l'écoute de mes remarques, de mes rajustements de tir que je lui proposais. Et le texte qui est là, je me sens très reflété dans ce texte, très présent dans ce texte. C'est ma voix, malgré ce que c'est ses mots à elle. Et c'est parce qu'elle n'a pas accepté mes suggestions d'emblée, mais elle a écouté chaque suggestion, puis elle a toujours intégré quelque chose, un ajustement, quand moi je trouvais que le ton n'était pas exactement, ou le sens n'était pas exactement ce que j'avais en tête. Il fallait aussi que je deal avec ma conscience et mon regard sur le monde quand j'avais 30 ans, comparé à mon regard sur le monde 30 ans plus tard.
Mais toi aussi,
qui est substantiellement la même, mais disons qu'il y a des nuances importantes. Et il y a aussi toute l'histoire du Québec qui a eu lieu depuis. Donc, peut-être le grand événement, c'est que la combinaison d'un esprit socialement progressiste avec l'indépendance, l'idée de l'indépendance du Québec, a été repris par un mouvement beaucoup plus modéré que Parti pris, avec un programme social allant vers la gauche, mais plus modéré, et avec un indépendantisme assez présent, mais encore une fois plus flexible que ce que Parti pris avait. Et ça a eu un grand succès. Ça porte le nom Parti québécois, et même le Parti québécois commence à être une légende d'autrefois à raconter nostalgiquement. Mais ce grand succès d'un mouvement modéré qui combinait les deux grands courants que Parti pris combinait, et que avant Parti pris, personne ne les avait combinés, ou à peu près personne, fait que l'histoire depuis a été très différente de ce que les partipristes imaginaient, que sans une révolution socialiste, l'indépendance ne pouvait pas se faire, et sans l'indépendance, le socialisme ne pouvait pas se faire, et que donc c'était une digue qui allait crever d'un coup s'il cognait assez dessus. Et on dirait maintenant que l'indépendance n'est pas réalisée et le socialisme n'est pas réalisé, mais disons, on est plus dans le voisinage des deux, beaucoup plus aujourd'hui. Et le digue n'a pas crevé d'un seul coup, mais il a été comme grugé petit à petit, puis peut-être qu'il va finir par être grugé complètement. Puis non seulement la conscience du Québec va être changée, mais même le système socio-économique va peut-être un jour être assez changé qu'on puisse dire que oui, il y a une révolution qui s'est faite là, et pas juste un esquisse ou un désir de révolution. Et j'ai pas vu, donc je voulais que le livre reste le livre de celui qui n'a pas encore vu rien de ça.
Ouais, non.
Et cependant, en arrivant dans mon dernier chapitre, j'ai vu que ce que je racontais dans ce chapitre de conclusion, il fallait une conclusion au livre, mais l'histoire n'était pas conclue du tout. Donc, je fais le portrait de jeunes hommes, parce que c'était beaucoup un mouvement d'hommes, par compris. Le féminisme n'avait pas cogné à la porte encore. Qui se cherchaient, qui avaient eu confiance pendant 3 ou 4 ou 5 ans, qu'en fonçant fort, ils pouvaient faire crever la digue. Là, la digue résistait beaucoup plus qu'ils pensaient. Il fallait qu'ils cherchent des nouvelles façons de faire. Quelle eau mettre dans leur vin. Ils ont fait une alliance avec le Parti socialiste du Québec, qui est un parti beaucoup dans le genre de ce qu'on voit aujourd'hui avec le Québec solidaire. Et ça, c'est le doute, c'est le où allons-nous qui marque le dernier chapitre. Ce n'est pas conclu, mais le livre prend sa conclusion. Donc je me suis dit, il faut que ce soit le doute encore, mais peut-être pas revenant à chaque paragraphe au même doute dit de 5 ou 6 différentes façons, mais en le disant une fois ou deux, et donc en raccourcissant le chapitre et en le mettant plus sobre et plus, plus patient.
D'accord. Donc, notre parti est pris, le livre de Malcolm Reed sur... quasiment sur l'émergence du Québec moderne. sur les écrivains révolutionnaires du Québec, 63-70, qui est disponible en librairie un peu partout, vient de sortir jeudi. Et Malcolm, t'aurais-tu quelque chose à rajouter là-dessus?
Deux choses. L'émergence du Québec moderne, je pense que oui, pour ses grands traits, sauf deux importants traits qui ne sont pas dans ce livre-là et qui n'étaient pas très présents dans le mouvement Parti pris. Et ces deux traits-là sont la marque du féminisme qui était très étonnamment absent chez les partis pris. Il y avait Clémence Desrochers qui a publié plusieurs romans avec les éditions Parti pris. Il y avait Pauline Julien qui était une figure de rebelle, femme rebelle, qui était très présente par le fait qu'elle était la blonde de Gérald Godin, qui était un peu le grand Manitou du mouvement dans ses 3e, 4e et 5e années. Il y avait Michel Lalonde, qui était un peu dans le même genre, mais qui n'avait pas publié son Speak White dans Parti pris, mais ailleurs, à l'Hexagone. Et donc, il y avait une présence femme, un peu dans cette phase-là de la lutte, mais la grande entrée en scène du féminisme, du néo-féminisme, n'était pas encore... C'était à 1 minute et demie de se produire, mais il ne s'était pas encore produit. Puis les partis pris, donc, n'étaient pas conscients de combien c'était une absence, a glaring omission on their part, de ne pas être plus conscient du potentiel du questionnement des femmes dans le changement social. Et même si ça, c'est le premier point, l'absence du féminisme. Et l'absence du féminisme, malgré que la grande mère fondatrice de ce courant-là, c'était Simone de Beauvoir, qui lisait les gens de parti pris parce qu'ils juraient par l'existentialisme français. Et le deuxième grand trait qui est absent, mais qui est à 1 minute et demie de se produire aussi, c'est l'écologisme. La poésie de Parti pris est remplie d'un chant de la nature. Donc, c'est vaguement présent. Mais ce n'est pas vu comme une question politique, c'est vu comme une tradition, comme un environnement, comme une nordicité, disons. Et donc, le caractère politique de la question de la défense de la nature n'est pas encore vu par les partis pris, même si ce sont des grands amateurs de la nature, spécialement André Major, pour qui le retour à la terre, le retour dans le bois est toujours le recours qu'on prend lorsqu'on est frustré en ville. C'est un grand... Il m'a sorti son album de famille avec des belles photos de lui en raquette et tout ça, puis j'ai fait des dessins à partir de ça pour illustrer le livre. Donc, ces deux choses-là, qui sont fondamentales au Québec actuel et moderne et post-moderne, ils sont un peu présents dans la mesure que moi, je critique les gens de parti pris timidement un peu, mais quand même un peu par-ci, par-là. Je donne des points à Gabriel Loy comme ayant été plus éveillé que sur certains aspects. Et je fais un beau dessin de Gabriel Loy, qui est de la génération bien avant, mais qui apporte quelque chose à la discussion. C'est un peu présent à travers moi, mais je voulais surtout leur donner la parole, donc c'est pas très présent dans ce qu'eux mettent de l'avant. Et l'écologisme non plus. Alors, je dirais que... Et puis, je dirais que Parti pris aussi, l'interculturel est présent chez eux dans le sens que ils veulent quitter le cocon canadien-français et entrer dans une culture marxiste et universelle et humaine. Et donc, ça veut dire ouvrir la porte à toutes les nationalités et à tous les accents. Mais disons, la porte était ouverte théoriquement, mais ce n'était pas encore une réalité. Parce que cette loi 101 qui a été le grand moteur de l'ouverture du Québec français à une diversité de couleurs de peau et d'accent, n'était pas encore même passé, même envisagé. Et donc, il y a quelques personnages en marge de mon livre, mais le grand non-canadien français dans les personnages du livre, c'est le narrateur.
OK, ben merci beaucoup, Malcolm.
Plaisir. Plaisir, Nicolas.
À une prochaine.
Oui.
Homme, à moitié femme, veut devenir maman. Joyeux Noël, tout le monde. C'est spécial. Alors, nos institutions travaillent pour nous. Comme Hydro-Québec, 1er avril, chers amis. Hydro-Québécois, 1er avril, c'est pas un poisson d'avril. Il n'y a rien dans le dos.
I wonder where that fish had gone.
C'est pas un poisson d'avril. Il n'y a rien dans le dos.
Fish, fishy.
Mais c'est peut-être nous qui collectivement sommes des poissons.
Oh, fishy.
Hausse des tarifs. Alors, hausse prévue 1,2, on marche à partir du 1er avril. C'est aujourd'hui, c'est là.
Is it in the cupboard?
Baisse un peu l'abat-jour, veux-tu, car c'est à l'ombre que les cœurs causent. On voit beaucoup mieux le cœur lorsqu'on voit un peu moins les choses. Ferme les lumières.
Monsieur Bouchard.
Et les droits des autochtones, ils s'arrêtent là où commencent les noms.
Hein, les droits des autochtones s'arrêtent où on commence, où commencent les nôtres.
Ouais, ben c'est la parole populiste.
Lulu.
Et une chronique radiophonique mixée par notre grand ami François. Juste pour votre fait, exclusivement.
Courageux François.
Courageux François qui se tape les populistes. Et Dieu sait qu'il en a. Qu'il y en a.
C'est un homme satisfait.
Oui. Ceci dit, il fait bien de nous rappeler qu'il n'y a pas juste les populistes de la radio, il y a aussi les populistes de la télé, il y a aussi les populistes de la politique.
Non, mais c'est un peu dur faire une chronique avec des populistes des journaux, par exemple.
Ben, quoi que c'est encore drôle, on les entend souvent à Radio-Canada et ailleurs. Parlant de journaux, en attendant les journaux populaires qui vont nous tomber dessus incessamment, notamment Droit de parole qui est actuellement en train de se monter et qui devrait être imprimé cette semaine, et éventuellement une cause commune et qui sait peut-être un infobourg, il y a tout de même des revues qui sortent. À l'occasion, c'est pas toutes les revues qui sortent deux fois par année, mais il y en a qui sortent plus souvent. Et il y a notamment Relations, dont la plus récente édition nous est arrivée. Relations dont il faut le souligner, le slogan a été changé. Ça ne parle plus de religion. Ça dit pour qui veut une société juste. Relations qui est probablement une des okay, je veux dire une grossière énormité, mais je la crois pareil. Je pense que c'est probablement une des revues les plus à gauche réellement au Québec actuellement. Donc, le numéro de 2009...
Plus qu'à Babar.
Plus qu'à Babar, oui, oui. Le numéro de mai 2009 qui porte sur la Palestine, assez d'injustice. Alors, on nous annonce des textes de tout ordre dans ce dossier. Une tragédie historique, une entrevue avec Gilbert Raccard, l'occupation coloniale, texte de Robert Fisk, tension entre le Fatah et le Hamas par Fadi Hamoud, développement ou dépossession par Dawood Amouded, l'autre Israël de David Nehas et déroute du mouvement de la paix par Anne Latendresse, Solidarité Québec-Palestine par Zaya El Masri. Donc, et puis sinon, là-dedans, il va y avoir d'autres textes intéressants, dont un éditorial traitant du dysfonctionnement à la tête de l'Église, qui se conclut en disant que dans la vie de toute institution surviennent des crises de leadership qui obligent à de profondes réformes dans l'Église catholique. Nous sommes sans conteste parvenus à ce point critique.
Ils sont au moins vaguement lucides.
Oui, c'est Marco Veilleux qui signe cet éditorial. Ouais, ben là, il faudra pas trop en demander non plus. Et donc, c'est ça. Puis sinon, ben, c'est les mêmes affaires que d'habitude, là. On se demande d'ailleurs si tout le monde en parle est une tribune médiatique populiste. Et Raymond Gravel nous annonce que tout le monde en parle et la grand-messe du dimanche. Raymond Gravel, ça, c'est le curé qui était député du Bloc.
Ouais,
et du choisir entre être curé et député.
Lui, il était sorti de l'église, lui?
Non, en fait, l'église, il a laissé le choix à un moment donné. Il a dit,
lui,
tu te représentes comme député ou ben non,
en Amérique latine, le président fraîchement élu, là, qui était évêque, lui, il était député dehors.
Ouais, en Amérique latine, il y a plein d'affaires bizarres avec l'église, là. Là, tu m'en demandes un peu trop, là.
Ah, désolé. Prépare un dossier, parle-nous-en la semaine prochaine.
Ouais, c'est ça. Je vais me compulser toute la théologie de la libération, mon ami. Donc, n'empêche, Relations, donc, une revue est disponible en kiosque et par abonnement, évidemment. On peut peut-être mentionner qu'ils ont un site web, et puis là, je l'ai refou, là, parce que je l'ai pas pris en note. Revuerelations.qc.ca. Faut dire aussi que Relations prolonge ces dossiers par des soirées thématiques, les soirées relations. Surpris.
Est-ce qu'elles sont protégées?
Et donc, dans la foulée du dossier Palestine et la justice, il va y avoir des tables rondes sur le thème « La cause palestinienne, l'impératif de la solidarité ». Bon, à Montréal, lundi 20 avril, mais surtout à Québec, lundi 5 mai 2009, au Musée de la civilisation avec Lauren Gay, Jeannette Kahn et Fabienne Présenté. Donc, ça va être... Donc, mardi 7 mai 2009, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Sinon, c'est déjà une invitation qui circule sur les différents réseaux web. Autre vue qui vient de sortir un numéro, c'est arrivé à Québec aujourd'hui, je crois. Enfin, moi, je l'ai reçu aujourd'hui.
C'est tout chaud.
Ouais, tout chaud. À Babar, Revue sociale et politique, le numéro d'avril-mai 2009 est sorti avec un dossier sur le Saint-Laurent. Alors, le Saint-Laurent, nous trouvons, on parle du fleuve, évidemment. Du fleuve. Là, c'est ça. Il y a tout un dossier sur tout ce qu'on peut imaginer par rapport à ce sujet. Les textes, c'est comme d'habitude, là, c'est l'espèce de cocktail Bon, Jean-Marc Piotte, pour sa chronique syndicale cette semaine, s'intéresse au Journal de Montréal, du père au fils. Gaétan Breton, son économie s'intéresse à sauver mon fric, sauver mon banquier. Et Normand Baillargeon qui traite encore d'éducation. Et toute une série, là, donc, de trucs. Ah oui, ça revient sur l'UQAM. Et l'avenir des universités. Il faut savoir que l'UQAM, actuellement, les professeurs en sont à leur 3e semaine de grève.
T'es pas en retard un peu.
4e semaine de grève?
Ouais, parce qu'ils ont voté jusqu'au 24. Ça ferait 6 semaines.
Poutain. Ok, et, ouais, non, j'en ai manqué un bout.
En mais tout cas, bref, ça fait très longtemps. Leur seul espoir, c'est que. pas leur seul espoir. Les libéraux ont menacé le décret.
Ouais, ça fait déjà 2 semaines qu'ils menacent le décret.
Ouais, non, mais v'là 2 semaines. Puis la Cour chaîne, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est. On pourra pas la semaine prochaine parce qu'on ne s'y agit pas, là, mais l'autre semaine après, là, il faudrait que ça débloque.
Ouais, mais en tout cas, bref, ça parle de ça dans Babar. Ça peut être intéressant pour mettre un peu en relief. Assez grave, là, ce qui se passe à l'UQAM, c'est tellement grave qu'on en parle maintenant dans le Journal de Québec et le Soleil, il faut le faire, là.
Enfin, dans les médias.
Non, mais parle quand même. Donc, mais voilà.
J'ai une question.
Oui.
Penses-tu que la loi spéciale engagerait 300 nouveaux professeurs?
Non.
Maudit.
Je ne pense pas. Je pense que la loi spéciale forcerait un retour en classe pour finir, pour créditer la session.
Tu es en train de me dire que le gouvernement va encore sauver le patron?
Ouais. Ben en fait, ce qui se passe là actuellement, c'est quand même particulier parce que tout le monde est en négociation et tout le monde est en grève. Là, pas juste les profs, là, et aussi les étudiants. Puis le personnel de soutien qui est tombé une grève de 24 heures, enfin la même.
Calmez-moi, ça s'échappe là.
Ils ont non, mais c'était spécial. Ils ont fêté le 40e anniversaire de l'UQAM en grève.
C'est correct, ça.
Tu sais, pendant 20 ans, il s'est rien passé. Puis là. Ils sont revenus, en fait, à leur plus belle tradition. Faut dire que depuis quelques années, là, ça brasse sérieusement l'UQAM. Enfin, bon, toujours est-il que c'est un dossier à suivre, mais je vous parlais quand même de la revue à Babar qui le suit pas tant que ça, mais il y a des choses là-dedans qu'on peut lire et qui sont intéressantes. Revue, donc, qui se retrouve dans les bonnes librairies, les bonnes tabagies, notamment à la pipe. Et est-ce que j'ai le temps? Oui, j'ai le temps. Il y a des choses quand même qui s'en viennent, outre la soirée relation, là, il y a des choses qui s'en viennent dans les prochaines semaines. Ce sera pas directement pour en fin de semaine, mais il faut quand même savoir qu'il y a 2 gros événements qui s'en viennent à Québec. D'abord, un forum citoyen le 25 avril, donc dans 10 jours. Le samedi 25 avril à 13h30 à l'ENAP, c'est le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste qui invite à un forum sur l'avenir du site du Patro-Saint-Vincent-de-Paul. Vous savez, l'espèce de magnifique ruine qui donne sur les Laurentides.
Les belles ruines.
Oui, les belles ruines de Québec. Alors, autrefois, c'était le Patro-Saint-Vincent-de-Paul. En ce moment, c'est le chaos un peu. Puis demain, on va peut-être avoir un gros hôtel Jarreau. Et ça, c'est un peu inquiétant.
Ils ont démoli illégalement. Il faut toujours le souligner, ça.
Ouais, non, c'est ça. Et donc, il va y avoir... bon, évidemment, comme il n'y a pas de consultation publique et qu'on fait juste nous présenter des esquisses dans les journaux et qu'il semble que les gouvernements des différents paliers vont faire à leur tête et faire un peu ce qu'ils veulent, le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste, il faut quand même dire que ça a l'air de rien de même, mais c'est dans Saint-Jean-Baptiste cette affaire-là. Donc, le Comité populaire organise un forum citoyen. Il va y avoir des panélistes qui vont échanger et puis, évidemment, des échanges avec la salle par la suite. Donc, on annonce Marc Boutin, géographe, Winnie Fron, urbaniste, et ça, c'est l'ancienne conseillère du Faubourg Saint-Jean. Elle était conseillère du Faubourg Saint-Jean quand le zonage a été changé sur le site du Patro pour permettre la vocation hôtelière. Un des premiers gestes de l'administration Lallier avait voté contre. Et Marcel Junius, architecte et urbaniste. Alors, ça va être animé par Françoise Guénette. Donc, samedi 25 avril à 13h30 à l'ENAP au 555 boulevard Charest-Est. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur Internet. Le site du Comité populaire, c'est le www.compop.net. Donc ça, c'est dans 10 jours. Et sinon, ben, il n'est pas trop tôt pour parler du 1er mai.
Et non, jamais trop tôt.
Jamais trop tôt de parler du 1er mai. À Québec, cette année, il va y avoir vraiment plein de trucs. Et, il y a les syndicats qui vont aller voir Werner. Il y a,
ça, c'est l'intersyndical.
Oui, l'intersyndical va aller voir Werner. Ils vont aller se perdre dans le bois. Et mais il y a aussi des groupes populaires qui, eux, vont être au centre-ville pour un carnaval de crise. Alors, face à la crise, on refuse de s'appauvrir. Donc, vendredi le 1er mai de 15h à 18h30, il y a un rassemblement à 15h à la place de l'Université du Québec. Ça c'est là où il y a, c'est dans Saint-Roch, là où il y a le rassemblement la nuit des sans-abri, puis en face du parc à 10 millions, en face du soleil. Enfin, bon, vous voyez où est-ce que c'est.
Ou le parking.
Oui, c'est ça. Ou le parking. Et où, le gros, tous les autobus. Québec, coin de la Couronne-Charest. Donc, il y a un rassemblement à 15h, c'est suivi d'une, à 15h30 d'une soupe populaire. Il va y avoir une marche. On va, en fait, on va faire le tour du centre-ville. Si vous avez plus d'informations, vous pouvez aller sur le site du REPAC, le Groupement d'éducation populaire en action communautaire, donc qui organise l'événement. Et ben, tout le monde est invité à se joindre. Là, c'est le groupe populaire qui invite, mais ils invitent très, très, très largement. Donc, www.repac.org. On peut déjà annoncer que notre collectif y sera.
Oh oui, en force.
En force. C'est ce qui me fait à cette édition de Voix de fait.
À la semaine prochaine.
Oui, si jamais vous en aviez pas assez, nous avons un blog, Voix de fait avec un X et un S, .blogspot.com.
À la semaine prochaine.